Des logements abordables, désirables et durables. Notre vision de la qualité. Une matinée événement organisée par l'Office foncier solidaire des Yvelines sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette matinale dédiée à l'Office foncier solidaire ici dans l'écrin architectural de l'hôtel du département des Yvelines. Ça tombe bien puisque Pierre Bédier est avec nous. Bonjour Pierre Bédier.
Bonjour.
Vous êtes le président du conseil départemental des Yvelines. Merci d'être avec nous. Vous êtes en politique quelqu'un de connu, de reconnu et un ardent défenseur des territoires. Ça, c'est un sujet très important. J'aimerais vous poser... pour mettre les pieds dans le plat directement, vous posez cette question. Quels impacts aujourd'hui ont justement ces effets de la crise grave que traverse l'économie immobilière, la fabrique de la ville dans le département?
Bah, c'est l'horreur. Une horreur absolue. En gros, en Île-de-France et donc dans les Yvelines, la seule recette fiscale qui reste au département, parce que depuis 20 ans, une grande partie de Bonneto a été engagée par l'État et les gouvernements successifs pour faire un jeu qui était censé être à somme nulle, un jeu de distribution de la fiscalité locale, ou de redistribution plus exactement de la fiscalité locale et de suppression, puisqu'on a supprimé la taxe d'habitation. Et au final de ce jeu de bonneteau, le dindon de la farce s'appelle le département. Pas le département des Yvelines, le département en règle
bien
générale.
Bien sûr, au sens
cette institution historique, voulue par le constituant en 1790, c'est-à-dire tout à fait au début de la Révolution française, qui était conçue comme étant le deuxième pilier de l'organisation territoriale, le premier étant la commune. On transformait les paroisses en communes. Et les constituants étaient bien conscients qu'il fallait un outil de solidarité entre toutes ces communes, de taille et de richesse différentes, et c'était le département. Donc le département qui est au cœur des solidarités territoriales, qui de par la loi de décentralisation voulue par Jean-Pierre Raffarin sous l'autorité de Jacques Chirac, est aussi celui des solidarités individuelles, on l'a ruiné par ce jeu de bonneteau autour de la fiscalité locale. Alors j'ai fait ce long préambule pour que vos éditeurs comprennent.
Je comprends.
Il ne nous reste plus comme fiscalité que les droits de mutation à titre onéreux.
Qui eux sont en baisse.
La fiscalité reposant sur les transactions immobilières. Or les transactions immobilières s'effondrent. Et pour que vous compreniez l'ampleur des dégâts...
Mais c'est triple peine,
Oui, c'est oui. Même quadruple. Pour que vous compreniez l'ampleur des dégâts dans les Yvelines, comme dans toute l'Île-de-France... Dans cette région de France, les droits de mutation à l'intérieur de la construction budgétaire sont le double de ce qu'a la province. Parce que l'Île-de-France a un marché immobilier plus dynamique
et plus résilient.
Et plus cher. Non, pas plus résilient, mais plus cher.
Plus cher, oui. Donc, en volume.
En gros, les droits de mutation représentent entre 30 et 40% dans nos budgets, alors qu'en province, c'est entre 20 et 30%. Or, en plus... Pour ça, je vous dis quadruple, quintuple peine, même si vous voulez. Les droits de mutation s'effondrent en Île-de-France quand ils ne font que reculer en province. En province, ils perdent entre 20 et 30%.
Exact.
Nous, ça perd 50%. Donc, en gros, les recettes des départements d'Île-de-France se sont amputées de 50%, de 40%, c'est-à-dire 20%. Et pendant ce temps-là, l'État continue d'accroître les dépenses de la solidarité nationale à l'égard des plus fragiles. Il oublie juste de nous rembourser quand il nous demande de dépenser. Donc quand vous additionnez tout ça, ce sont des sommes colossales que nous ne pouvons plus décaisser. Donc nous n'avons plus d'autre solution maintenant que soit d'arrêter toutes nos activités de solidarité territoriale pour ne nous concentrer que sur la solidarité individuelle. Donc plus d'aide aux communes, c'est ce qui est en train de se passer progressivement.
Oui, tout à fait.
Et c'est dramatique pour les communes, parce que pour les usagers des communes, pour les habitants, il n'y aura plus d'investissement dans la commune s'il n'y a plus l'aide du département. Et la deuxième façon de faire, c'est de s'endetter. On a bien vu où le risque de la dette avait amené l'État français. Donc je n'ai aucune envie en ce qui me concerne que le département des Yvelines tombe dans cette trappe, dans ce piège qu'est la dette. Hein, c'est une drogue, la dette. Il en faut. Il en faut parce que ça participe au développement.
Bien sûr.
Il faut qu'elle soit maîtrisée, donc modérée.
Pierre Bédier, merci, parce que vous avez vraiment mis, les pieds dans le plat. Je vous propose qu'on continue sur cette trajectoire. Vous avez été en un temps aussi aux affaires. Vous avez un grand parcours politique. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour résoudre cette équation ? Comprenons-nous bien. Vous avez eu la suppression de la taxe d'habitation, qui a été délétère à l'égard des élus locaux, même si les mécanismes de compensation, je ne suis pas sûr qu'ils aient été vraiment à l'équilibre à l'euro près. Parce que certains...
Vous pouvez être certain que ça n'était pas le cas.
Voilà, ce n'était pas le cas. Je prends simplement les propos que j'ai repris récemment de Jean-Philippe Bugoin-Clément, qui, je reprends ses propos, nous sommes carrément à l'os, dans le sens où, finalement, dans le sens de l'équation même antinomique, on a un État qui s'endette et une imposition de rigueur budgétaire à l'égard des élus locaux et des organisations régionales. On a l'impression, véritablement, de quelque chose qui est complètement... dissonant, pour pas dire autre chose, ça rend même un peu schizophrène. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, vous, Pierre Bédier, pour essayer de remédier à cela ? Parce qu'on voit bien que les DMTO aujourd'hui remontent péniblement, même si les indicateurs de l'octroi des banques repartent un petit peu à la hausse, ça reste quand même faible. Je donne juste un chiffre. À trois reprises, la BCE a baissé ses taux directeurs de 0,25%, ça a fait gagner 75 points de base. C'est nettement insuffisant pour relancer la machine. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rétablit une fiscalité locale d'équilibre, effectivement, et là, pour le coup, il faut une puissance politique. Et quel est l'avenir, Pierre Bédier, des départements ?
Alors, là, vous m'en posez. Je vais essayer de ne pas répondre pendant une heure, donc pour être le plus succinct possible. Je pense que le moment est venu d'une troisième étape de décentralisation. La première a été faite par François Mitterrand. Elle a créé la décentralisation, cette première étape. La deuxième a été engagée par Jacques Chirac, comme je l'évoquais tout à l'heure, et par un gouvernement dans lequel j'avais eu l'honneur d'être engagé. Et je crois que le moment est venu de la troisième étape. Cette troisième étape, elle doit être l'occasion de remettre l'État en situation de pouvoir faire son travail d'État. Car le temps passant, l'État se mêlant de tout, certes aussi à la demande de nos concitoyens, il n'est plus capable de rien. Parce que quand on se mêle de tout... ça débouche toujours sur
la situation,
l'incapacité à
faire. Le démontre suffisamment.
Donc un État omnipotent, c'est un État impotent. Partant de là, il faut donc ramener l'État sur ses missions de sécurité publique. Parce que ça, pour le coup,
c'est clair.
Il y a un sujet. Donc ça veut dire et un ministère de l'Intérieur et un ministère de la Justice qui aient des moyens matériels d'assurer cette sécurité publique. Il faut d'autre part, au moment où la montée des périls est très grande dans le pays, avoir les ministères qui participent à la protection internationale de la France, c'est-à-dire le ministère des Armées et le ministère des Affaires étrangères, qui aient les moyens de cette action. Il faut aussi, chaque fois que possible, essayer avec nos partenaires européens de mutualiser nos actions, parce que sur ces sujets de sécurité publique, de sécurité internationale, sans mutualisation européenne. Nous sommes un acteur, de par désormais la part de notre population dans le monde, la part de notre richesse dans le monde, nous sommes un acteur trop faible. Notre histoire est sans doute plus prestigieuse que la réalité de nos moyens d'aujourd'hui. Il faut savoir le reconnaître. Pour autant, notre responsabilité historique et l'intérêt des Français est de rester un acteur actif et pas de s'enfoncer dans une espèce de neutralité
qui
ferait disparaître de l'histoire. Et tout le reste, je dis bien tout le reste, il faut le confier à des échelons démocratiquement élus qui sont des échelons locaux. Et je crois que pour ma part, les meilleurs échelons, ça n'a pas changé depuis deux siècles. Comme on a inventé la République il y a deux siècles, et en inventant la République, on a inventé les communes et les départements.
Très juste.
Pour moi, cette trilogie, elle continue à être d'actualité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille supprimer les intercommunalités ou les régions, mais je pense que ce sont des outils administratifs de mutualisation, un peu comme l'Union européenne d'ailleurs pour les nations. l'intercommunalité, mutualisation de ce qu'on peut mutualiser dans les communes, mais sans obligation légale.
Mais Pierre Bédier, ceux qui pensent qu'au contraire, il y a un courant mauvais qui dit que ce sont les départements qu'il faudrait supprimer au profit de grandes régions, de mouse régions, vous savez, un courant peu technocratique, ce que vous dites finalement revient à aller sur du bon sens, à proximité des administrés.
Je pense que les départements
et l'ancrage local.
Exactement, sont plus à proximité, donc je vous finis le raisonnement. Comme les intercommunalités émanent des communes, et on ne doit pas les obliger à faire des choses. Ce sont les élus qui doivent décider ce qu'ils vont faire ensemble parce qu'ils sont les plus à même de juger. Ça, on doit faire la même chose pour les régions. On a besoin de cet outil régional, mais qui doit être un outil de coordination des politiques départementales et donc une émanation des départements. Et ça n'est pas pour faire des misères à l'échelon régional. Je crois à l'échelon régional. J'ai été élu régional.
Bien sûr.
Je pense qu'il doit être l'émanation des départements.
Très juste.
C'est une façon aussi de pouvoir mutualiser nos administrations et donc de permettre...
Et ce n'est pas une façon d'additionner...
C'est vrai que le millefeuille coûte un peu cher, ce qu'on appelle le millefeuille.
Bien sûr, c'est pas une façon, dans votre discours, d'additionner les institutions.
Non, c'est de l'efficacité.
Qui perdraient de l'efficacité.
C'est pour que l'efficacité soit grande, je pense qu'il faut de la proximité. Et une région, vous prenez la région Aquitaine, parce que je veux pas prendre la région Île-de-France qui a des spécificités. Mais la région Aquitaine, pour aller d'un bout à l'autre de la région Aquitaine en voiture, il faut la journée. Oui, parce que vous partez de Limoges et vous devez aller à la frontière espagnole.
Mais oui, très juste.
C'est très long.
Oui.
D'autant qu'il n'y a pas des autoroutes tout le long.
Oui.
Il y a des quatre voies, mais pas forcément des autoroutes. Et donc, on a atteint une taille qui est excessive. Donc, vraiment, je crois à l'échelon départemental pour justement pratiquer cette complémentarité avec ce qui est quand même l'échelon de base de la République, avec la commune.
Mais bien sûr.
L'échelon régional aura toujours beaucoup plus de mal à être le bon acteur, me semble-t-il. Ça doit être un acteur de coordination la région des grandes politiques publiques que sont le développement économique, c'est-à-dire les sujets de mobilité, de logement.
Bien sûr.
Mais qui doivent partir d'abord des communes, porté par le département et coordonné à l'échelon régional.
Dans le même impact, la loi SRU, qui a un peu plus de 25 ans maintenant, aujourd'hui est un vrai sujet qui pose question auprès des élus locaux. Vous avez d'ailleurs eu des positions très claires à cette question, sans même d'ailleurs mettre en cause le fondement même de la loi SRU, bien évidemment. Quelle réponse, justement, on peut apporter par le conseil départemental du 78 que vous représentez, lorsqu'on voit aujourd'hui, et vous le savez Pierre Bédier, une crise des plus graves que nous traversons d'accession au logement. Accession à la propriété pour les primo-accédants, une dégradation, vous le savez, du pouvoir d'achat, et surtout, Pierre Bédier, vous le savez, un éloignement des zones d'emploi et des bassins d'emploi. Je sais que ça vous touche particulièrement. Comment on peut essayer d'apporter des réponses? Quel est votre point de vue, justement? Est-ce qu'il faudrait réécrire, peut-être, ou revisiter le principe de contingent sur la loi SRU? Peut-être revoir les quantums, puisque toutes les municipalités, par essence, ne se ressemblent pas, forcément. Et pourtant, on est tous axés, vous êtes tous axés, vous, les élus, sur, justement, répondre à la demande des citoyens sur un logement digne et décent.
Alors, d'abord, sur la loi SRU, je pense qu'elle repose sur une hypocrisie autant que sur une nécessité. La nécessité, c'est qu'il faut qu'il y ait du logement pour les plus modestes partout. Mais quand vous voyez qu'en Île-de-France, ceux qui ont accès au logement social sont 80% des habitants de l'Île-de-France, vous avez donc créé une hypocrisie, puisque... Vous avez une loi qui dit qu'il faut qu'il y ayt 25% de logements sociaux avec 80% d'ayants droit. Dans ce cas-là, si on était logique, on dirait la loi SRU, c'est une loi qui doit imposer 80% de logements sociaux dans les communes.
Si on suit votre raisonnement,
c'est clair. Comme on ne l'a pas fait, ça veut bien dire que c'est absurde. Bien. Donc il faut en fait beaucoup moins de logements sociaux que 25%. Les logements sociaux doivent être réservés aux très pauvres. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, ne serait-ce que parce que il n'y a pas de bail sur le logement social, et que donc quelqu'un qui va rentrer dans un logement social à un moment où il est modeste. Moi, j'avais le cas d'un couple de professeurs des universités à Versailles, oui, qui étaient rentrés dans un logement social au moment où ils avaient des enfants, donc ils avaient eu un grand logement social, et ils avaient des revenus modestes, parce qu'ils étaient juste maîtres de conférences à l'université. l'un et l'autre, par leur mérite, sont devenus docteurs et donc professeurs. Deux salaires de professeurs des universités, c'est infiniment supérieur
à
deux salaires des maîtres de conférences.
Là, vous évoquez
vous
la rotation.
C'est à ça que les enfants sont partis.
Bien sûr, oui.
Ces deux personnes disposaient d'un 5 pièces avec un loyer extrêmement modéré à Versailles. Je dis, c'est pas juste.
Oui.
Je dis pas de nom.
Oui.
Je cite un cas particulier parce que ça n'est pas juste.
Et il reste
le logement social doit être réservé à des gens très modestes. Et donc, c'est probablement 5%, 10% de la population. Et je suis d'accord avec le principe de la loi SRU partout. Parce qu'on ne doit pas faire des camps de gens modestes, des quartiers de gens modestes. Les gens modestes doivent pouvoir se loger partout.
D'accord.
Et ensuite, il faut d'autres cantons à l'intérieur des 25%, parce que la loi SRU comprenait bien qu'il y avait un problème. Je crois donc au logement intermédiaire. C'est un logement qui est plus cher que le logement social, mais qui est plus qualitatif, et donc il faut le mettre dans la loi SRU. Je crois aussi à la nécessité de l'accession sociale à la propriété, en particulier en Île-de-France et en particulier dans les Yvelines. Aujourd'hui, dans les Yvelines, le prix, dans une partie des Yvelines, pour avoir un 3 pièces, et un 3 pièces, ça veut dire que vous aurez un ou deux enfants maximum.
Maximum.
On ne peut donc pas parler de grand logement familial.
C'est très clair.
Un 3 pièces, c'est environ 60 mètres carrés, ça coûte donc dans les Yvelines 300 000 euros. 300 000 euros, même sur 25 ans, ça veut dire que si vous ne gagnez pas, le couple, 40 000 euros par an, vous ne pouvez pas devenir propriétaire dans les Yvelines, dans la partie urbaine des Yvelines. C'est pas normal. D'où la nécessité d'avoir aussi, à l'intérieur de ces 25% de la loi SRU, des cantons d'accession sociale à la propriété pour permettre aux jeunes ménages d'accéder à la propriété. Je suis pour l'accession à la propriété.
D'accord.
Parce que nous sommes un pays qui a des racines et dans lequel les gens veulent avoir des racines et veulent conserver leurs racines. Et être propriétaire, c'est une forme d'enracinement. Et puis surtout, c'est la première des politiques sociales. Parce qu'être propriétaire, ça veut dire que lorsque vous devenez retraité, vous pouvez rester dans votre logement. Parce que quand vous êtes locataire, que vos revenus s'effondrent au moment de la retraite,
de 30
ça ne va pas s'améliorer.
Non.
Parce que le déséquilibre de notre système de retraite, si on le conserve comme il est, s'accélérera. Eh bien, le fait d'avoir son logement, d'être le propriétaire, éventuellement de pouvoir le revendre pour acheter plus petit,
absolument.
Et d'avoir comme ça une différence, un petit capital qui permet de venir compléter la retraite, eh bien, c'est une forme de politique sociale. Alors, c'est pas une politique sociale qui apparaît aujourd'hui comme une priorité, je le regrette.
D'accord. On pourrait même imaginer qu'un couple de retraités qui a une maison qui a été acquise pendant des années puisse la revendre pour aller
Exactement.
Vers un OFS, justement pour ne pas perdre le pouvoir d'achat, parce que se posera aussi la question de l'emprunt. C'est très clair dans votre... Donc finalement, quand je vous écoute, Pierre Mélié, vous seriez favorable à revisiter les aspects de l'articulation de la loi SRU.
Moi, je suis totalement convaincu que la loi SRU partait d'une bonne intention, mais qu'elle produit quelques monstres, des blocages aussi, et de plus en plus de blocages et psychologiques et politiques, et elle participe à la radicalisation de l'opinion publique, donc bien sûr, il faut la refondre, il faut la reformer, en conservant sa générosité, le principe de générosité.
Bien sûr. Toute dernière question rapidement, les perspectives de l'action locale dans le contexte actuel, vous l'avez dit, vous êtes aujourd'hui sur des équations, même des injonctions contraire, antagoniste, avec un État qui se jacobinise et qui ne cesse finalement de vous transférer des compétences sans y associer les recettes. Ça devient même schizophrène pour les élus locaux. Et d'ailleurs, dans la période de la mandature, c'est la première fois qu'on voit autant de maires en cours de mandat jeter les branches. Je vous le dis, c'est une statistique nationale qui nous fait craindre parfois les difficultés. C'est quoi les perspectives du point de vue du président du département que vous êtes aujourd'hui et aussi également toute l'expérience politique que vous avez dans notre pays?
Si nous ne faisons pas, à l'occasion de la prochaine élection présidentielle, une révision complète de notre fonctionnement institutionnel, c'est-à-dire, dans le cadre de la Ve République, on ne change pas la Constitution, entamer cette troisième étape que j'appelais au début de notre entretien de mes voeux,
décentralisation.
Qui est cette troisième étape de décentralisation, nous n'y arriverons pas. Nous n'arriverons pas à redresser la France. La solution, elle passera par la décentralisation, où elle ne se passera pas. Voilà. Donc, mais ça ne peut être que dans le cadre du grand débat de l'élection présidentielle. Il faut espérer que ça soit pas un débat qui se fasse sur des images.
Mais l'inverse, c'est quoi? C'est l'effondrement?
Qui se fasse sur de la démagogie, hein. Parce que les élections, élections présidentielles après élections présidentielles, on dépense toujours plus.
C'est clair.
L'argent, il n'y en a plus. On n'a plus
c'est
que
clair.
Des dettes.
Ah oui, c'est clair.
J'ai eu l'occasion de le dire, ça me fait penser. L'État français se comporte comme se comportait ce grand escroc international, Christian Rocancourt, là, qui se faisait.
Oui, Christophe de Rocancourt.
Christophe qui se faisait passer pour quelqu'un de très riche. Nous, on a fait un peu ça. Tout le monde nous prêtait en se disant la France est riche. On est en train de découvrir que la France ne l'est plus riche.
Ne l'est plus.
Elle n'est riche que de ses dettes. Et donc, nous aurons besoin, en 2027, d'avoir ce débat. Autrement, ça finira.
C'est un choc républicain. À l'inverse, effectivement, on peut craindre l'effondrement même de l'institution en elle-même, avec, bien évidemment, les conséquences que chacun sait aujourd'hui. Dans le dessin européen. Merci Pierre Bédier.
Merci.
C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le président du conseil départemental des Yvelines.
Merci.
Des logements abordables, désirables et durables. Notre vision de la qualité. Une matinée événement organisée par l'Office foncier solidaire des Yvelines sur Radio Immo et Radio Territoria.